Nzamba.
Nzambira samirana. Le journal avec Francine Cagnani.
Vous êtes bien sur la radio Inzamagate Kakawe, c'est l'heure du journal de ce lundi 3 juillet 2023. Tout d'abord les titres. Scandale à Genève, la délégation burundaise partie pour participer à l'examen de la situation des droits de l'homme au Burundi a boycotté la séance de ce lundi. Elle a justifié son attitude par la présence dans la salle de défenseurs des droits humains, dont maître Armel Niyongere, que le pouvoir qualifie de criminel. Mais le Conseil des droits de l'homme, lui, a poursuivi son travail. Le chef de l'État a tous les pouvoirs pour procéder aux changements nécessaires, notamment celui de la non-discrimination. C'est ce que fait observer la coalition CFOR Arusha. Celle-ci estime que le discours d'Évariste Ndayishimiye le 1er juillet, appelant à lutter contre les divisions, est loin de refléter la réalité. Les joueurs de l'équipe nationale de basketball des mois de saison étaient plus âgés. Le Burundi a été éliminé de fait de la zone 5 pour les éliminatoires en vue de la qualification à la Coupe d'Afrique des mois de saison. À toutes, à tous, bonjour, bonsoir, bienvenue.
Suivez les émissions de la radio Inzamba en direct sur le www.inzamba.org.
On a trouvé la mort dans les cachots de la zone Gatete, en commune et province de Lumonge. Ce dimanche, des sources sur place affirment que la victime a été amenée dans ce cachot samedi soir après avoir été gravement battue par des imbonneurs coulés. L'agent de police qui l'a mise en prison est déjà aux arrêts. Les précisions avec Bonfils Niyongiri.
Cet homme a été amené au cachot de Gatete dans la soirée de ce samedi. Il a été reçu par un officier de police et judiciaire connu sous le nom de Nkongoro. Il avait été battu par des miliciens Imbonerakure, qualification des Nations Unies, membres de la Ligue des jeunes Imbonerakure, du CNDD-FDD, pendant leur patrouille nocturne. Ces Imbonerakure l'accusaient d'avoir volé des armes à huile selon des sources proches du dossier. L'officier de police judiciaire qui l'a accueilli, qui n'a pas signalé que le détenu était malade, a été mis au cachot du commissariat provincial de police à Lumonge. Après audition par le commissaire de police judiciaire, selon des sources de la radio Nzambagate Kakawe à Lumonge, il a appelé le directeur de l'hôpital Lumonge dans la soirée de ce dimanche. C'était pour le convaincre de recevoir son cadavre et le déposer dans la morgue de l'hôpital. Cela pour faire simuler et faire croire à l'opinion que la victime est décédée à l'hôpital. C'est la camionnette de police de Lumonge qui a récupéré le corps sans vie du détenu mort dans la soirée de ce dimanche. Il a été acheminé de Gatete à la morgue de l'hôpital Lumonge, selon des sources locales. La victime était gardien de palmier à huile à Gatete. Les habitants de Lumonge s'insurge contre son comportement et demande que des complices de son meurtre soient arrêtés et traduits en justice conformément à la loi. La rédaction de la radio Nzambagate Kakawe a contacté par téléphone l'administrateur de la commune Lumonge pour plus d'éclaircissements sur cette affaire, mais il n'a pas décroché son téléphone portable.
Merci, bon fils Niyongere. La délégation du gouvernement burundais envoyée à Genève a décidé de boycotter l'examen de la situation des droits de l'homme au Burundi. C'est après que le comité des droits de l'homme a refusé d'exclure de la séance des activistes de la société civile que le gouvernement qualifie de criminels. En scandale, selon le défenseur des droits humains burundais, maître Armel Niyongere, un des concernés, regrette ce boycott qu'il estime son fondement. Il salue la décision du comité des droits de l'homme de poursuivre la session sans la présence de la délégation burundaise.
C'est vraiment scandaleux que la délégation du Burundi refuse de participer à une session publique du comité des droits de l'homme, soi-disant que parmi la délégation de la société civile, il y avait moi-même qui participait à la session, donc il disait que ils ne peuvent pas poursuivre cette réunion en présence dans la salle d'une personne qui est condamnée par la justice burundaise. Donc le comité a pris la décision de continuer la session sans la présence du gouvernement. En tout cas, je félicite le comité d'avoir défendu le caractère public des sessions et pas injustement suivre la demande du gouvernement du Burundi. Et donc c'est une honte aux autorités burundaises de toujours avancer des prétextes soi-disant qu'il y a des mandats d'arrêt qui ont été lancés à l'endroit de certains défenseurs et journalistes, alors qu'ils savent bien que la communauté internationale est au courant de la façon dont ces mandats d'arrêt ont été émis. Donc nous regrettons l'absence de la délégation du Burundi et souligne une dégradation des relations entre l'État du Burundi et les organes de traité depuis juin 2016.
Le président Évariste Ndayishimiye appelle tous les Burundais à en découdre avec l'esprit de haine et de division qui les a caractérisés après l'indépendance du Burundi. Il a lancé cet appel dans son discours lors de la commémoration du 61e anniversaire de l'indépendance du Burundi. Selon lui, travailler dans l'unité des Burundais, c'est le seul moyen de cimenter cette indépendance. On l'écoute.
Il est grand temps que tout le monde, sans exception, se remette en cause. L'image du Burundi a été ternie devant la communauté internationale parce qu'il y a eu beaucoup de mauvais comportements des Burundais après l'indépendance du Burundi. Entre autres, des cas d'injustice, de tuerie, de détournement des deniers publics, pour ne citer que cela. Cela a fortement affaibli notre pays et a eu un impact négatif sur la jouissance de notre indépendance. Nous avons encore des cicatrices de ces périodes noires. Il y a encore dans notre pays des gens qui ont exploité leur ethnie, leur région ou encore leurs appartenances politiques pour dominer les autres, et c'est tout cela qui a alimenté la haine et la jalousie entre les Burundais. Je demande à tous les Burundais d'éviter de replonger le pays dans le passé sombre des années 1965, 1969, 1972, 1988, 1993 et 2015. Aujourd'hui, ça devrait être l'occasion de se dire que le temps que nous venons de passer avec l'indépendance est assez grand pour changer nos comportements.
Le président Ndayishimiye, traduit par Karine Doussari. Les actes du pouvoir reflètent le contraire du discours du président Évariste Ndayishimiye lors du 61e anniversaire de l'indépendance du Burundi. C'est un constat de Jean Bosco Wigemela, vice-président de la coalition Arusha. Selon lui, l'appel du chef de l'État à lutter contre les divisions est contredit par l'attitude et les discours des plus hautes autorités du pays, à commencer par le secrétaire général du CNDD-FDD et le président de l'Assemblée nationale. Jean Bosco Wigemela fait remarquer qu'Évariste Ndayishimiye dispose pourtant de tous les pouvoirs pour procéder aux changements nécessaires.
La CFO Arusha salue le courage d'avoir osé pointer du doigt cette situation, on ne peut plus scandaleuse, quand elle est surtout entretenue par les plus hautes autorités. Mais le premier à opérer les changements est le président de la République lui-même. Il a tous les atouts à main, à commencer par les pouvoirs constitutionnels. Or, avoir les différentes nominations aux postes politiques, le déséquilibre dans les forces de défense et de sécurité, et dans les postes techniques, c'est toujours le même décor. Il faut être du CNDD-FDD ou de l'ethnie du président, et cela malgré le prescrit de l'accord d'Arusha, qui devait être une référence. Les autres n'y ont pas de place. Malgré les compétences ou la bonne foi, ils sont non seulement considérés comme des étrangers, mais aussi et surtout comme des ennemis de la nation. Le discours prêchant la haine ethnique reste impuni, une sorte d'encouragement implicite. La composition du sévère, son attitude face aux crises cycliques, et à endeuiller notre pays caractérisé par la partialité, la subjectivité et cette haine ethnique, et dont le travail a été béni par la très haute institution du pays, à savoir le Parlement, les deux chambres réunies, prouve à suffisance que le discours du président est loin d'être rassurant tant que cette situation n'aura pas changé. Le système CNDD-FDD est lui-même bâti sur l'ethnisme et une ferme volonté de faire de son parti un parti État.
Jean Bosco Wigemela de la coalition CFOR Arusha.
Inzamba.
Suite de cette édition, plus de 8 mois sont distribution de serviettes hygiéniques aux femmes et aux filles réfugiées burundaises du camp de Lusenda en République démocratique du Congo et se servent actuellement des morceaux de tissu dont l'hygiène n'est pas assurée, ce qui leur cause des infections bactériennes. Suivez ce reportage de Karine Doussavé.
Selon Olivier Ilan de Numangende, qui représente les réfugiés du camp de Lusenda, ces femmes et filles n'ont pas encore eu des serviettes hygiéniques depuis 8 mois. Écoutez le représentant des réfugiés.
Effectivement, je dirais que les femmes ainsi que les filles du camp des réfugiés de Lusenda donc, viennent de passer au moins 8 mois sans avoir leur kit de dignité.
Il indique qu'actuellement, elles utilisent des morceaux de vêtements impropres, ce qui leur cause des infections bactériennes et demande une intervention du Haut Commissariat pour les réfugiés.
Actuellement, à pas mal de maladies, des infections sont souvent enregistrées au niveau des postes de santé suite au linge sale qu'ils utilisent ou actuellement, ils demandent de voir comment le gouvernement puisse quand même faire des efforts possible à ce qu'elles soient les quittes de dignité.
Vous saurez que sur un effectif de 28 000 réfugiés burundais du camp de Lusenda, 16 000 sont des femmes et des filles.
Karine Doussavé, merci. Grâce les familles de la composante des Batois résidant sur les collines Mukoni et Chivali, en commune et province Muyinga, ils s'inquiètent suite à une information qui fait état d'une délocalisation pour être réinstallée ailleurs. Ils affirment qu'aucun responsable administratif ne les a jusqu'ici approchés pour confirmer si cette information était fondée. Par contre, si elle s'avère vraie, ces Batois affirment que ce serait ni plus ni moins une violation de leurs droits. Le gouverneur de la province Muyinga, Jean-Claude Valutkonayo, tranquillise ses familles, assurant qu'il n'y a pas de projet du genre, mais que si tel était le cas, ces Batois seraient installés dans les villages de paix en vue, au même titre que les autres composantes de la population. Edi Claude Ninazu.
Ces Batois avoisinent 50 familles dont la majorité vit à Mukoni. Même si aucun responsable administratif ne leur a rencontré pour leur en informer, ils disent détenir des informations sur leur possible déménagement afin de viabiliser le site qu'ils occupent présentement. Un déménagement compliquerait davantage leur vécu quotidien.
Nous sommes habitués à ce lieu. Qu'ils essayent de nous délocaliser, il nous serait difficile de nous habituer à un autre endroit et aussi au nouveau mode de vie.
Selon eux, il leur serait très difficile de vivre sur les nouveaux sites car ils auront tout laissé derrière eux.
Nous aimerions que personne ne vienne nous déplacer encore une fois. On a marre d'être délocalisé à chaque fois qu'ils reviennent. C'est nos droits qui sont bafoués. Nous sommes habitués à cet endroit. Nous y avons planté des arbres fruitiers. Regardez cet avocatier. Nos enfants les cueillent facilement. Ils vont à l'école étant rassasiés.
Le gouverneur de la province Muyinga, Jean-Claude Valutkonayo, tranquillise ses familles, expliquant qu'il n'y a pas de mesures en vue pour les délocaliser vers un autre site.
Ce que nous désirons, c'est qu'il y ait de nouveaux villages auxquels seront installées toutes les classes ethniques, y compris les Batois. Il n'est pas prévu pour le moment d'installer ces Batois ailleurs.
Ces Batois affirment qu'ils viennent de passer plusieurs années sur les sites qu'ils occupent jusqu'aujourd'hui et sont plus ou moins stables.
Parlons économie, des irrégularités dans la distribution du carburant en province Makamba sont signalées. On parle notamment du rôle troublant des forces de l'ordre. Les consommateurs demandent aux autorités administratives de prendre des mesures pour prévenir toute spéculation sur les produits pétroliers. Et d'être avec Joséphine Jones Mundimana.
Après près d'un mois de pénurie d'essence dans les stations-service de la capitale de la province de Makamba, une seule station a pu en distribuer le vendredi 30 juin 2023. De nombreuses irrégularités ont été observées. Comme nous avons pu le constater, des vendeurs ambulants de carburant ont rempli plusieurs bidons d'essence avec la complicité des policiers chargés de superviser cette distribution. D'autres ont approvisionné leurs motos à plusieurs reprises pour les vider immédiatement avant de revenir se réapprovisionner. Ces motos étaient favorisées, dépassant celles des autres usagers qui faisaient la queue devant cette station, parfois sous escorte des policiers ou même conduite par ces derniers afin d'éviter les protestations des autres personnes en attente. La situation est restée ainsi jusqu'à l'arrivée du responsable du SNR, le Service National de Renseignement, de la province de Makamba et du commissaire provincial, mais cela s'est avéré trop tard car le carburant était presque épuisé sans avoir servi la quasi-totalité des motos et des voitures qui étaient alignées devant la station depuis la nuit du jeudi au vendredi. Les consommateurs de produits pétroliers affirment que cette situation se répète à chaque approvisionnement des stations. Ils expliquent que pour être servi rapidement et éviter les contraintes, les policiers demandent des pots de vin allant de 5 à 10 000 francs. Certains policiers procèdent également à la revente du carburant. Ici, en exemple, le commissaire Moïse Alakaza, connu sous le sobriquet de Niega Niega, qui s'approprie chaque fois au moins 5 bidons lors de chaque distribution. Ce carburant est acheminé à Muyange, dans la commune de Nyanzalak, où il réside. Les consommateurs demandent aux autorités administratives de prendre des mesures pour éviter les spéculations sur les produits pétroliers. Il convient de noter que cela se produit alors que le commerce de carburant sur les marchés noirs est interdit depuis un certain temps afin de lutter contre les spéculations devant les stations. 4 motocyclistes impliqués dans le commerce clandestin de ce produit ont été arrêtés par la police ce mardi dernier sur le parking de Makamba. Ces arrestations de vendeurs se sont poursuivies dans les autres communes de la province de Makamba jusqu'à lundi matin. 5 personnes avaient déjà été arrêtées dans différentes localités de la commune de Nyanzalak. Un nombre indéterminé des vendeurs de carburant a été également appréhendé hier dimanche dans la commune de Kayogoro. Des sources policières indiquent que tous ceux qui ont été arrêtés seront bientôt jugés en flagrance afin de dissuader les spéculations sur les produits pétroliers.
Josephine Jones, Mundimana. On reste dans l'économie. Une évaluation des experts externes devrait être faite à l'endroit des coopératives parce qu'elles reçoivent régulièrement une subvention étatique annuelle. C'est une déclaration faite ce lundi par Faustin Dikoumana, directeur national de Parsem. C'est à l'occasion de la journée internationale des coopératives célébrée le 2 juillet. Pour lui, cette évaluation permettrait de savoir la contribution faite par les coopératives dans le développement du pays, car elles sont chaque fois soutenues par des fonds publics. Écoutez.
Je crois qu'il faudrait une évaluation externe d'abord par au principe directeur, c'est-à-dire l'objectif, la capacité, l'autonomie des coopératives, la gestion démocratique des coopératives, l'indépendance. Est-ce que les coopératives, les membres, se rassemblent sur un objectif commun, qu'il y a une expertise à partager, donc voir si la viabilité vraiment est de fait. Sinon aussi vérifier le fonctionnement des organes, en l'occurrence l'Assemblée générale, le conseil d'administration, la gérance, le conseil de surveillance, et la gestion comptable et financière. La gestion financière et comptable dans les communes, comment ils tiennent les comptabilités, les audits, les caisses, donc les rapports financiers, chaque coopérative, la viabilité financière. Et après, alors, évaluer l'impact, parce que au moment que les coopératives reçoivent régulièrement une subvention étatique annuelle, cette année budgétaire 2023-2024 est prévue 87 milliards. Depuis que cette allocation a été fixée, décidée, et on est à peu près à plus de 300 milliards, déjà, outils dans les coopératives. Est-ce que les coopératives sont-elles des entités économiques qui continueront à recevoir régulièrement des subventions? Est-ce que ce sont des subventions ou des prêts? Y a-t-il des entités qui reçoivent des subventions chaque année? À quel retour? Parce que les entreprises ont peur les aider à naître, mais leur viabilité, ils ont déjà, ils peuvent vendre, ils peuvent s'organiser. La coopérative ne devait pas avoir une assistance, presque viager. Ça serait vraiment budgétivement au niveau du trésor public. Et encore faut-il faire une analyse, donc un audit pour voir si l'argent a été déjà remboursé, comme on le disait, et que les communes s'étaient portées comme des garants des prêts accordés aux coopératives. Il faut une précision, il faut vraiment entrer en profondeur par rapport à cela.
Page sportive pour boucler ce journal. Au basketball, le Burundi a été déclaré forfait des matchs éliminatoires de la zone 5 pour la qualification à la Coupe d'Afrique des mois de saison. La raison est d'avoir aligné des joueurs de plus de 16 ans, même sanction pour les mêmes motifs à l'endroit de la Tanzanie. Au football, Vitalo et Fombo du Centre se sont qualifiés pour la finale de la Coupe du Président Pierre Nkurunziza. Alexandre Niyungeko pour les détails.
Les matchs comptant pour les demi-finales de la Coupe du Président Nkurunziza se sont déroulés hier au stade Rukundo de Ngozi et au stade Mucho de Muyinga. Ngozi, flambeau du centre, a battu Lukinzo de la police nationale par 3-1, tandis qu'à Muyinga, Vitalo est venu à bout de Aigle Noir par 4 pénaltys réussis et 3 de Aigle Noir de Makamba. C'est après que les deux équipes se soient neutralisées par un but partout après le temps réglementaire. La finale se joue le 8 juillet courant au complexe Ngurunziza Peace Park, Stadium de Makamba. Il s'agit d'un tournoi organisé chaque année par la Fondation Pax Burundi de Révélien Ndikuriyo. Au basketball, les équipes nationales de moins de 16 ans qui avaient représenté le Burundi au Rwanda du 28 au 30 juin dans les éliminatoires de la zone 5 pour la qualification à la Coupe d'Afrique ont été toutes éliminées. Le Burundi a en effet aligné des joueurs de plus de 16 ans selon des tests effectués par les médecins de la FIBA Afrique. Les autres qui ont été déclarés forfaits pour la même raison sont des joueurs de la Tanzanie. Et le Burundi et la Tanzanie se sont finalement contentés de jouer des matchs amicaux.
C'est par vous, Alexandre Niongeko, que se termine cette édition. Merci à la rédaction de la radio Ndamba pour la production de ce journal. Un grand merci surtout à vos chères auditrices et auditeurs pour votre fidélité. Une bonne semaine à toutes et à tous. Au revoir. We'll be right back.